CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous. Vous êtes, sachez-le, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission aujourd'hui, Hervé Puteau, président de JPA Audit, présent dans 80 pays, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Martin, DAF d'ALD Automotive. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, vous êtes titulaire d'un MBA Finance. Vous commencez chez Deloitte de 2000 à 2005, puis PricewaterhouseCoopers avec l'accent jusqu'en 2010. Vous souhaitiez vraiment faire du consulting, vous
hein ? Effectivement, il est important de poursuivre une carrière assez structurée. Dès le départ, j'ai souhaité poursuivre cette activité dans la finance, dans le conseil. Et après avoir fait un apprentissage chez Deloitte entre 2000 et 2002, j'ai poursuivi assez naturellement dans cette voie-là. Après, le conseil, c'est plein de métiers.
Hein. Oui, bien sûr.
C'est l'avantage de ces maisons-là, c'est de pouvoir avoir un parcours assez diversifié.
Et vous avez fait quel genre de domaine ?
Pendant les premières années chez Deloitte, c'était principalement de l'audit, hein, du commissariat aux comptes. Principalement sur des institutions financières, puisque mes clients étaient alors Société Générale, le Crédit Lyonnais Asset Management, pour ceux qui s'en souviennent encore. En 2005, lorsque j'ai changé de cabinet, j'ai fait un métier qui s'appelle le Transaction Services, donc tout ce qui est due diligence financière, et là, plus largement, pas uniquement sur des institutions financières.
En 2010, vous rejoignez justement la Société Générale pour faire du conseil, là encore, pendant 6 ans. Vous y faisiez quoi exactement ?
Alors là, j'étais dans une équipe toujours tournée autour des transactions, puisque pendant 5 ans chez Price, j'ai fait de la due diligence financière dans le cadre de transactions, dans le cadre de cessions ou d'acquisitions. Là, c'était un autre métier du conseil autour de la transaction, puisque je faisais du conseil en M&A, conseil en fusion-acquisition, dans une équipe destiné aux clients de la banque en France, de groupe Société Générale en France, sur des entreprises de taille moyenne. Alors taille moyenne, ça veut tout et rien dire, hein, puisque grosso modo, c'était entre 10 millions d'euros de valeur et 2 milliards.
Et des belles ETI quand même.
Oui, des belles ETI, tout à fait.
2016, vous rejoignez l'International Banking and Financial Services, toujours avec l'accent. Vous êtes sur des opérations stratégiques principalement.
Oui, effectivement, dans la continuité de ce métier de conseil stratégique, parce que finalement, lorsqu'on est conseiller M&A, on s'adresse aux dirigeants d'une entreprise, aux directeurs financiers, aux actionnaires fondateurs. J'ai voulu qu'on poursuive dans cette voie-là qui est assez excitante, en fait. On est un peu au cœur du réacteur. Et j'ai poursuivi dans cette voie-là au sein de la Société Générale, au sein du groupe Société Générale, sur un de ces 3 grands piliers, donc qui est la banque de détail à l'international et les services financiers spécialisés. Et là, j'ai été amené, on va dire 80% de mon temps, à travailler sur les opérations du groupe ALD Automotive et à 20% de mon temps sur d'autres opérations, que ce soit en Afrique ou en Europe.
Voilà pourquoi vous rejoignez en 2019 ALD Automotive.
Donc. Exactement. Après avoir finalement fait 20 ans de prestations de services intellectuels, conseil, m'a dit maintenant, vas-y.
Vas-y vraiment.
Mets les mains dans le cambouis, tu vas voir comment ça va être agréable. Et donc je me suis lancé. Donc j'ai rejoint la filiale française d'ALD Automotive, dont je suis le directeur financier. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, ALD, c'est quoi ?
ALD, c'est la filiale à 80% du groupe Société Générale qui est spécialisée dans la location longue durée de véhicules. Alors ça, c'est très générique, mais de manière plus globale, on se veut comme un fournisseur de solutions de mobilité durable. Et nous sommes le leader européen devant d'autres concurrents français d'ailleurs, le numéro 1 en France.
Également. Combien de salariés ?
On est dans le monde un peu plus de 6500 collaborateurs, en France à peu près 1200.
Thierry de Pantou.
Guillaume, alors donc peut-être quelques questions un peu techniques. Est-ce que finalement,
vous louez des voitures, donc ça veut dire que vous achetez des voitures, vous n'avez pas l'argent, donc vous l'empruntez. Est-ce que vous êtes sensible au taux d'intérêt et est-ce que finalement la baisse des taux d'intérêt ou les taux bas ont été très favorables à votre activité ces dernières années ?
Alors, on est peu sensible aux fluctuations des taux d'intérêt pour la bonne et simple raison que, en fait, à chaque fois qu'on va financer un véhicule pour l'un de nos clients, on va se financer en back-to-back auprès de nos financeurs, principalement Société Générale ou financeurs externes. Mais en fait, on a des programmes d'émission et de financement qui permettent de se désensibiliser à cela. C'est un des grands principes de la banque, d'arriver. Du métier de financement en général, d'arriver à se désensibiliser sur les taux.
D'accord, donc vous prêtez à taux fixe et vous empruntez à taux fixe.
Tout à fait.
Et donc, est-ce qu'on peut dire que cette période de taux bas a été bonne pour votre business, puisque plus les taux sont bas, j'imagine, moins les loyers sont élevés. Donc, est-ce que la période de taux bas a été favorable à votre business? Alors, et si demain les taux remontent, est-ce que ça peut être moins favorable?
C'est effectivement un élément important, surtout pour les grands groupes qui sont clients pour nous, qui ont véritablement une éducation sur la structuration de nos prix. Ça l'est moins pour les PME ou le mass market. Donc effectivement, en période de taux de bas, on peut se dire que nos grands clients corporate vont vouloir regarder un renouvellement de leur flotte. En fait, ça, c'est quand on raisonne uniquement en produits de financement. En fait, ce que nous faisons, c'est un apport de service. Nous sommes assembleurs de services, parce que, en fait, effectivement, on a le financement du véhicule, ça, c'est indéniable, mais on fournit un certain nombre de services autour du véhicule, que ce soit la maintenance, l'assistance, la réparation, les pneus, les véhicules de remplacement, il y en a une dizaine d'autres. Et en fait, on offre des solutions de mobilité à nos clients. En fait, on n'offre pas un financement. C'est une composante non négligeable, mais pas essentielle.
Ouais, donc vous êtes plus qu'un financier. Donc vous avez une vraie offre de services. Et juste peut-être une question maintenant pour revenir un peu sur cette crise sanitaire qui nous a tous touchés. Est-ce que pendant cette crise sanitaire, vous avez eu des impayés plus importants? Comment ça s'est passé, le recouvrement de vos loyers, des créances? Ça a été plus difficile que d'habitude ou pas?
Étonnamment, non. Mais je pense que c'est un peu le cas de la plupart des clients qui sont en B2B, finalement. On a bien vu le nombre de défaillances d'entreprises en France qui a baissé de plus de 35% en 2020. C'est des chiffres qu'on n'avait jamais vus. Donc, de ce fait-là, on n'a pas eu une difficulté particulière sur notre recouvrement.
Oui, mais beaucoup sont, si je puis dire, sous respirateur artificiel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va être après.
Tout à fait. Peut-être. Donc, effectivement, c'est un risque qui est devant nous.
Reporté.
Qui est reporté. Cela étant dit, dans le cadre de nos pratiques comptables, nous avons la possibilité de prendre en compte un risque à venir, et donc on a pris en compte ce risque à venir dans notre bilan en 2020, de manière à se couvrir un peu contre ce risque potentiel. Mais je suis d'accord avec vous, c'est malheureusement à venir.
Oui, je le crains. Hervé, plutôt.
Oui, Guillaume, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure en matière de mobilité durable. Et en préparant cet entretien, j'ai compris que tous ces sujets environnementaux étaient assez sensibles pour vous. En tant que DAF, aujourd'hui, toutes ces questions qui, in fine, vont aboutir sur ce qu'on a coutume d'appeler l'information extra-financière, vous l'intégrez, vous la préparez comment?
Alors, sur la partie française, parce que je suis le directeur financier de la filiale française, effectivement, c'est pas un élément qui est aujourd'hui nécessaire en termes de publication. C'est plus au niveau de des groupes où on a des exigences en termes de reporting environnementaux et sociaux de manière plus importante. Cela étant dit, nous, dans notre stratégie au quotidien, on accompagne ce mouvement. C'est pas seulement un sujet de publication, en fait. C'est un sujet très concret.
Organique.
Organique, de dire, nous, nos objectifs, c'est qu'à horizon 2025, on ait 30% de nos véhicules qui soient des véhicules dits verts. C'est assez simple, mais au moins, c'est très concret. comme sur notre flotte interne, on dit qu'il faut baisser de 40% nos émissions de CO2. Voilà, c'est ça qu'on va aller suivre plus particulièrement.
Très bien, merci. J'ai compris qu'au-delà, on va dire, des véhicules traditionnel. Il y a effectivement cette tendance aux véhicules verts. Peut-être aussi, quand on dit la mobilité, on pense souvent les mobilités, finalement. Je pense aux deux roues, en particulier. Est-ce que tout ça, dans les modèles que vous construisez, et dans vos missions, finalement, j'imagine que ça doit faire appel à des technologies, à des outils un peu nouveaux sur... Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'intelligence artificielle, mais en tout cas de predictive data, de data analyst, etc. Est-ce que c'est des choses qui se mettent en place?
Alors, il y a beaucoup de sujets en cours sur ces données-là. Déjà, sur notre métier fondamental, qui est en fait le fait de détenir un actif pendant 3 ou 4 ans et de l'entretenir pendant 3 ou 4 ans et puis de le revendre ou le relouer pendant une période ultime. On a la nécessité d'utiliser tout le jeu de données disponible pour avoir un élément de prévisionnel. Et ça, on fait appel déjà à de la data science sur ces éléments-là. On a des projets sur nos prévisions de coûts de maintenance, nos prévisions de revente de véhicules d'occasion. Ça, c'est sur notre cœur de business. Maintenant, en tant que directeur financier, effectivement, il y a aussi qu'est-ce que ça veut dire sur notre rentabilité, sur nos prévisions de bilan. Donc ça, on n'est qu'à l'aune de cette partie-là où, effectivement, on va essayer d'introduire, on est en train de s'équiper d'un nouvel outil budgétaire en ce moment. J'étais encore avec l'équipe cet après-midi pour parler de ce sujet-là, qui va inclure à terme, pas maintenant, à terme, un outil d'intelligence artificielle sur du predictive data.
Très bien, merci.
Guillaume, pour terminer, il paraît que vous êtes un passionné de golf.
Tout à fait.
vous avez un handicap
Oui, ça fait 20 ans que je... Enfin, 20 ans, que dis-je, 30 ans que je joue.
Ah oui
Oui, je suis, je crois, encore handicap 8, mais...
Bon.
Non, c'est un petit niveau amateur.
Et vous espérez grandir encore?
Alors, j'aimerais bien. Maintenant, il faut avoir le temps. Pour le faire. C'est un sport qui est très consommateur de temps. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'entraîner assez régulièrement.
J'imagine quand on entend tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Guillaume. Merci également à vous, Hervé et Thierry. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.